Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Ben, que Dieu nous bénisse ce matin et que sa grâce continue à couler dans nos vies. Nous sommes engagés dans un enseignement qui est capital et qui est relatif à la construction des 12 chambres du bonheur conjugal. Construire les 12 chambres du bonheur conjugal. Alors, je voudrais vous demander de vous tenir debout. Nous allons prier et demander que la grâce de Dieu nous assiste et que ce qu'on nous allons enseigner libère et fasse du bien incroyable dans la vie de plusieurs personnes qui ont tant besoin de la grâce et de la présence de Dieu, surtout dans le domaine du mariage. Père, je te remercie pour ton assistance. Tu n'as pas changé, tu es le grand Dieu. Tu mérites d'être adoré, d'être loué. Je te confie ses frères et ses sœurs. Et je demande que ta grâce coule. Car tu as toujours voulu que l'homme et la femme soient heureux et une vie abondante sur terre. C'est pourquoi, Père, bénis ta parole, inspire les cœurs et que la gloire te revienne. Je lis les cœurs à toi. Je lis les cœurs à toi. Et je proclame ton salut, ta restauration et ta puissance dans les vies, afin que le mariage soit heureux, qu'il soit béni, qu'il soit prospère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et on répond tous Amen et Amen. La semaine dernière, nous avons eu à échanger sur le bonheur au niveau des fondements spirituels du bonheur conjugal. Mais aujourd'hui, nous allons parler de manière tout à fait précise de la construction de la maison du bonheur conjugal. Comme j'ai eu à le dire, le bonheur conjugal est une maison sous forme de triplex, avec un premier niveau, un deuxième niveau et un troisième niveau. Alors aujourd'hui, nous allons voir le premier niveau et voir que dans ce triplex qui est le bonheur conjugal, il y a des chambres. Alors, nous allons aborder ce matin les deux premières chambres. Et si on a encore le temps, on pourrait aborder la troisième chambre. Mais nous allons commencer par la première chambre. Et cette chambre est importante parce que c'est la chambre du commencement. La première chambre du bonheur conjugal, c'est la recherche de l'âme sœur. Je dis bien la recherche de l'âme sœur. Si nous réussissons à construire notre recherche de l'âme sœur, nous sommes bien partis pour être heureux et pour être heureuse. Parce que le bonheur conjugal ne s'improvise pas. Il est le résultat d'un processus qui commence depuis le jour où on s'est engagé à trouver l'âme sœur. La Bible est un livre formidable. Ce n'est pas seulement un livre spirituel qui traite des choses spirituelles, mais c'est un livre aussi qui traite des choses humaines, des choses pratiques, des choses concrètes. Et nous allons jeter notre regard sur ce que Dieu lui-même a dit et ce qu'il a fait avec l'homme. Alors prenons nos Bibles dans Genèse chapitre 2, qui est le verset phare, le passage phare plutôt, du verset 18 au verset 20. Je lis ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui lui sera son vis-à-vis. L'Éternel Dieu forma du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit l'une de ses côtes et la referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à la côte. Il l'avait prise à l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Oh, cette fois-ci, c'est l'os de mes os. » La chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Amen et amen. On a déjà lu ce passage plusieurs fois, mais l'aspect qui m'intéresse ici, c'est la recherche de l'âme sœur. Dieu a vu que l'homme avait un besoin et que cet homme avait besoin de trouver l'âme sœur. Alors Dieu a fait venir les animaux pour qu'ils donnent un nom. Donc l'homme était dans un besoin de trouver l'âme sœur, l'autre moitié qui n'est pas lui, mais qui lui est indispensable. Trouver son vis-à-vis. C'était une préoccupation pour Dieu de voir que celui qu'il avait créé à son image avait besoin de trouver une personne avec qui ou avec laquelle il allait vivre une vie de paix, de bonheur et de joie. Est-ce qu'on peut dire amen avec moi? Donc Dieu est la base au commencement de la recherche de l'âme sœur. Et c'est une activité qui est importante. Vous savez que si vous racontez, vous savez, c'est le lieu où vous avez rencontré votre femme qui va déterminer la manière dont votre vie va être menée, si vous serez heureux ou pas. Et je suis très sérieux sur ce point-là. C'est-à-dire, le commencement part de là. C'est le lieu où vous avez rencontré votre femme. Ou bien, c'est comment vous avez rencontré votre femme ou votre mari. C'est ce comment-là, c'est ce lieu. Ce sont ces circonstances qui vont déterminer la manière dont votre vie sera bâtie, sera scellée, sera saisie, sera appréhendée, et si vous serez un homme heureux ou pas, si vous serez une femme heureuse ou pas. Si vous rencontrez votre femme au bout du chemin, dans un couloir bizarre et tout cela, il se peut que votre vie soit de manière bizarre au bout du couloir. Si vous l'avez rencontrée dans un show, dans une boîte de nuit, dans des maquis, il se peut que votre vie soit une vie de maquis. Bon, Dieu fait toujours grâce. Mais je veux dire par là que la recherche de l'âme sœur est importante. Si vous la recherchez sur Internet, ou si vous la recherchez sur Internet, en vous basant sur le visuel, en vous basant sur la beauté physique, en vous basant sur ce que vous avez entendu, il se peut qu'à la suite des temps, votre vie ressemble à ce qu'on a entendu, à ce qu'on a vu, sans qu'elle soit du concret. Écoutez très bien. La recherche de l'âme sœur est la première chambre du bonheur conjugal. La première chambre des 12 chambres du bonheur conjugal. Et la Bible nous donne une instruction tout à fait claire, ou plutôt des directives, des instructions à travers la vie d'Abraham. Comment Abraham, cet homme de foi, conduit par Dieu, a pu trouver les moyens afin que son fils Isaac, qui était le fils de la promesse, trouve l'âme sœur. Je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de la Genèse au chapitre 24. Ce chapitre 24 comprend 67 versets. Évidemment, nous ne pourrons pas tous les lire à cause du temps, mais nous allons prendre les aspects importants. Du verset 1 au verset 3, lisez maintenant avec moi. Du verset 1 au verset 3. Abraham était vieux. Il avait atteint un âge avancé et l'Éternel l'avait béni en tout. J'aime bien cette expression-là. Dieu l'avait béni en tout. Oh, chers frères et chers sœurs, ma prière, c'est que Dieu vous bénisse en tout. En tout. Et la bénédiction de Dieu n'est pas limitée seulement à un individu. Elle agit jusque dans ses entrailles, jusque dans sa descendance, jusque dans la génération qui viendrait ou qui vient de lui. Et au verset 2, il est dit, Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, qui administrait ses biens, tu vas mettre ta main sous ma cuisse et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et de la terre, le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite. Mais tu iras dans mon pays, dans ma patrie, prends une femme pour mon fils. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je y ramener ton fils dans le pays que tu as quitté? Abraham lui répondit, garde-toi d'y ramener mon fils. Verset 7 maintenant. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait quitter ma famille et ma patrie, lui qui m'a parlé et qui m'a juré de donner ce pays à ma descendance, lui-même viendra, enverra son ange devant toi. Et c'est là-bas que tu prendras une femme pour mon fils. Si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégage de ce serment que je t'ai fait. Seulement, n'y ramène pas mon fils. Son serviteur mit sa main sous la cuisse d'Abraham, son seigneur, et lui prêta serment au sujet de cette affaire. Alléluia et amen et amen. Ok. Comprenons et voyons attentivement ce que les Écritures nous révèlent. Du verset 1 au verset 3, Abraham, qui est le petit du père, et c'est le père de la foi, la Bible dit d'ailleurs, est conscient que son fils bien-aimé a un problème. Isaac n'était pas n'importe qui. Isaac était l'héritier d'Abraham. Vous voyez, Abraham est un peu à l'image du père céleste. C'est qu'une image. Et Isaac est l'image des fils, du fils héritier. Et nous sommes comme Isaac, les fils. Et Dieu, notre Père, sait parfaitement que nous avons des besoins. C'est-à-dire que le besoin du bonheur conjugal tient au cœur de Dieu. Il me tient fondamentalement au cœur de Dieu. C'est pourquoi Abraham s'en préoccupe, en tout cas pour ce qui concerne son fils. Il s'en préoccupe d'une manière particulière. Sachez que Dieu, le grand Dieu, le Dieu du ciel et de la terre, comme Abraham l'a appelé, le Dieu très haut, le El Elyon, se préoccupe de notre bonheur conjugal, notre vie sur terre. C'est pourquoi on doit apprendre à lui faire confiance et à le solliciter pour qu'il nous conduise et qu'il crée les circonstances favorables, le temps favorable, afin que nous trouvions la femme de notre vie. Est-ce qu'on peut dire amen? Afin qu'on trouve l'homme de notre vie. Est-ce qu'on peut dire amen? C'est important. Il ne faut pas se précipiter à faire le choix parce que la chair réclame. La chair peut réclamer. Mais on a besoin d'être conduit afin que Dieu nous éclaire et que notre choix soit un choix qui est oui et amen. Parce que si on s'y prend au hasard, on risque de se séparer au hasard, comme c'est le cas aujourd'hui et que la mode où on prend une femme, on se sépare après 10 ans, on estime qu'elle est trop vieille, elle ne nous ressemble plus, on est plus évolué qu'elle, on est plus connu qu'elle, c'était la femme du passé, maintenant c'est la femme de l'avenir. Ouais, c'est pas un bon témoignage et c'est même pas sérieux. Il faut vraiment que nous comprenions le fondement spirituel du mariage et pourquoi est-ce que Dieu tient à ce que nous puissions bâtir la bonne maison en commençant par la maison, par la chambre qui est la chambre, la richesse de l'âme sœur. Alors, ce passage nous donne les idées de la démarche à faire. Regardez, Abraham fait jurer son serviteur, le plus ancien. Sachez que Dieu ne veut pas que l'homme jure. Le Seigneur l'a dit, ne jurez pas par Jérusalem parce que c'est la vie de Dieu, ni sur la terre parce que c'est la demeure du roi, ni par le ciel parce que c'est la demeure du Père et de Dieu. Donc, il ne faut pas jurer. Mais Abraham, conscient de l'importance du mariage, conscient de l'importance du mariage, de la valeur du mariage et de la répercussion du mariage sur sa vie, la vie de son fils, conduit son serviteur et l'exige à prêter serment. Or, vous savez très bien que quand on prête serment, on est lié par ce serment toute sa vie. Si on viole ce serment, la mort s'ensuit. Le mariage est un serment, c'est une alliance. C'est pourquoi on parle même d'alliance. On parle d'échange d'alliance. On met la bague au doigt. Ce n'est pas une bague de beauté, c'est une alliance. Une alliance est perpétuelle. Une alliance entraîne la vie et la mort quand elle est violée. Abraham le sait. Écoutez-moi très bien, chers frères, chers sœurs. Pour ne pas qu'on s'amuse avec le mariage, avec le cœur des enfants des gens, avec le cœur des filles des gens, avec le cœur des fils des gens, et qu'on les prenne au sérieux. Est-ce qu'on peut dire amen avec moi? Détendez-vous, ne soyez pas trop crispé. Alors, Abraham fait jurer son serviteur. Celui-ci met sa main sous la cuisse d'Abraham et Abraham lui dit, par le Dieu que je sais, tu vas prendre l'engagement d'aller chercher pour femme comme femme, mon fils, une fille qui vient de ma famille, qui vient de ma patrie, qui vient de ma maison. Déjà, à travers cette parole d'Abraham, on voit les critères de choix. Dans la recherche de l'âme sœur, on voit déjà les critères de choix. Mais on voit aussi la direction de Dieu, ce qui prend Dieu à témoin. Pour qu'on trouve la femme de notre vie. Pour trouver l'homme de notre vie, on a besoin de la direction de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen avec moi? du verset 7 au verset 8, là il dit, et du verset 12 au verset 14, nous voyons cela. Lorsque le serviteur se met à prier, puis il dit, Éternel, le Dieu de mon serviteur Abraham, mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontre aujourd'hui ce que je cherche et agis avec bienveillance envers mon Seigneur Abraham. Mais voici placé près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois. Je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu auras destinée à ton serviteur Isaac. Ainsi, je reconnaîtrai que tu agis avec bienveillance envers mon Seigneur. Amen. Le serviteur Élisée se met à prier pour montrer sa dépendance à l'égard de Dieu. Le premier signe, c'est la direction de Dieu. Dans la recherche de l'âme sœur, il faut la direction de Dieu, il faut la dépendance à l'égard de Dieu. Quand je dis direction de Dieu, je ne parle pas de songes, de rêves. Beaucoup mettent l'accent sur les rêves, les sentiments. Ils ont vu une sœur qui est belle, qui a des belles formes, Coca-Cola ou tout ce qu'on veut, qui a la taille de guêpe, qui a ceci, qui a telle couleur, yeux bleus, yeux grands, yeux rouges, taille noire, foncée, grosse, mince, bref. Alors, si vous avez déjà vos propres critères dans votre esprit, dans votre tête, votre homme, 1m95, qui a des poitrines, qui a 5 mètres de largeur, bref, avec toutes les menstruations possibles. Et que vous voyez un frère à l'église ou quelque part, le fait que vous avez fixé vos propres critères dans votre esprit ne vous donnera plus la lucidité nécessaire pour apprécier la direction de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Quand vous-même vous fixez vos propres critères, vous n'avez plus la lucidité nécessaire pour apprécier la direction de Dieu. Le serviteur se laisse entre les mains du Seigneur. Il veut dépendre de la direction de Dieu. C'est pourquoi il prie Dieu pour dire, je me tiens là. Oh Dieu, conduis les événements. Pourquoi la prière est importante dans le choix d'une femme et ou d'un homme? Écoutez très bien. Notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Est-ce qu'on est d'accord avec moi? Dieu est le maître des temps et des circonstances. Jacques l'a dit. Il dit, en lui, il n'y a aucun homme de variation. Alors, si Dieu est le maître des temps et des circonstances, ça veut dire qu'il est capable de créer des circonstances, de provoquer des circonstances, d'engendrer des circonstances qui nous permettront de rencontrer la femme de notre vie ou l'homme de notre vie. Vous savez que la vie d'un homme, d'une femme peut changer en étant deux temps, trois mouvements. Il suffit, ou il nous suffit, ou vous suffit de rencontrer la bonne personne au bon moment. Qui a permis ça? C'est Dieu qui a créé les circonstances. Vous partez rendre une visite à votre cousin qui est malade ou qui a eu une promotion, vous réjouissez, et votre cousin a un ami qui en même temps aussi a profité pour lui rendre visite, et vous rencontrez chez votre cousin, vous échangez et vous engagez quelques débats, et l'ami de votre cousin se sent un peu, intéressé, attiré, mais sans trop parler, ou changer de contact. Plus tard, il vous rappelle deux, trois fois, et puis c'est parti. Et ce cousin, cet ami peut être un chrétien. Ça peut se faire aussi à l'église. Mais je veux dire par là que Dieu est capable de créer, d'influencer les circonstances. C'est pourquoi on a besoin de dépendre de lui. Et il prie pour que Dieu crée les circonstances favorables à la rencontre de l'âme sœur. Gloire à Dieu. C'est écrit dans Proverbe chapitre 3, verset 5, nous donne également une instruction sur cela. Comment Dieu conduit nos vies? Prenons nos Bibles dans Proverbe chapitre 3, du verset 5 au verset 6. Proverbe, c'est juste après le livre de Psaume. Donc, Proverbe chapitre 3, du verset 5 au verset 6. Je lis maintenant. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence ou sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et c'est lui qui aplanira tes sentiers. Amen. C'est lui qui aplanira tes sentiers. Ça veut dire quoi? Il va aplanir ton chemin. Le chemin qui te conduit vers l'âme sœur, qui te conduit vers le bonheur conjugal ou dans le bonheur conjugal. Gloire à Dieu. Ok. Donc la direction est importante. Deuxième chose maintenant, c'est que la prière du serviteur d'Abraham, Élisée, va nous conduire à voir des critères qui nous permettent de choisir la femme notre vie ou l'homme notre vie. Quand nous lisons bien ce passage-là, on voit qu'Abraham a dit à son serviteur, va dans la maison de mon père, dans ma famille, dans ma patrie, pour y choisir la femme de ma vie. Et il a même demandé à Eliezer, il a dit, mais dis à Eliezer de ne pas s'amuser, de ne pas s'hasarder à prendre une femme parmi les filles des Cananéens. C'est pour cela qu'il a fait jurer à son serviteur Eliezer. Pour montrer que le choix d'une femme ou d'un homme se prend dans la famille de Dieu. Se prend dans la famille de Dieu. La famille d'Abraham connaissait Dieu. On le verra plus tard. Parce que quand ils ont rencontré Rebecca et qu'ils ont prié, la famille entière a prié. Ils connaissaient Dieu. Parce que quand Abraham est parti, Abraham lui a révélé que c'est le Dieu des cieux qui lui a parlé. Donc, ils avaient gardé une connaissance de Dieu. Donc, le choix d'une femme ou d'un homme doit venir de la maison de Dieu. Bien sûr, quand je parle de maison de Dieu, je ne parle pas d'église, de votre église, de votre communauté. Je parle de la famille de Dieu, c'est-à-dire de l'assemblée, l'assemblée de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Là, ne rendez plus en ligne de compte les dénominations. Est-ce que le monsieur ou la dame a rencontré Christ comme Seigneur Sauveur? Même si vous n'êtes pas de la même église dénominationnelle, ça ne pose pas un problème. Bon, je comprends que certaines personnes ont des critères, ont des petits problèmes par rapport à ceci ou par rapport à cela, mais il faut se mettre d'accord sur ce qui paraît essentiel. Donc, au niveau spirituel, il y a des critères spirituels. Et le critère spirituel par excellence, c'est que la femme ou que le mari, le futur mari ou la future femme, soit de la même famille spirituelle que vous. C'est-à-dire qu'il soit de la famille de Dieu, qu'il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je connais des personnes, et c'est souvent des sœurs, qui disent, oui, pasteur, il n'est pas chrétien, mais je l'aime, oh, je vais prier pour lui, pour que son cœur soit changé. Bon, vous prenez ce risque, c'est une aventure. C'est comme si vous prenez, vous allez prendre le chèque de quelqu'un, vous signez un gros montant, vous mettez un gros montant et vous lui dites, monsieur, bon, j'ai un problème, j'ai mis tel montant sur le chèque, je vous le tends, signez-le. Vous allez signer un chèque comme ça. La femme, elle ne sait même pas, vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Bon, ceux qui veulent prendre des risques peuvent prendre des risques. Je ne dis pas que quand quelqu'un est chrétien, il est forcément juste, il est meilleur que le païen. Non, je ne parle pas de ça. Il y en a qui sont chrétiens mais qui ont un comportement bizarre. Mais je dis que fondamentalement, il doit être enfant de Dieu. Pourquoi? Mais parce que quand vous liez de corps, vous liez aussi d'âme et d'esprit. C'est dans la Bible qui le dit. 1 Corinthiens chapitre 7 en parle. Quand un homme s'attache à une femme, il devient seul, cher avec cette femme-là. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Mais pas seulement la chair physique, mais il devient même une seule âme. Une seule âme. Il se change du sang, il se change des émotions, il se change, j'ai envie de dire, de l'onction. Alors si la personne avec qui vous partez n'est pas dans la foi, et qu'elle ne connaît pas Dieu, et qu'elle adore d'autres dieux, elle peut vous influencer négativement. Pensez à Salomon. Souvent on veut influencer Dieu. Salomon était un homme qui avait une sagesse exceptionnelle. La terre n'a jamais connu une sagesse aussi brillante, aussi lumineuse, aussi grande, aussi élevée que celle de Salomon. Mais Salomon s'est couché, il dit bien, il s'est couché devant les femmes. Il s'est couché devant les dieux, les faux dieux des femmes que Dieu avait défendu d'adorer. Et pour cela, Dieu avait demandé à Israël d'exterminer les peuples qui adoraient les faux dieux. Salomon s'est couché devant ces faux dieux à cause des femmes. Donc ne dites pas, oui, c'est vrai, je vais l'amener à la conversion. C'est vous qui amenez les gens à la conversion maintenant. Est-ce que nous sommes Saint-Esprit pour convertir quelqu'un? Il peut jouer à l'hypocrite, il peut venir à l'église. Le jour où la bague a été mise au doigt, il va vous montrer le vrai visage. Il ira prendre les petites filles du quartier. Peut-être avec votre cousine, il ira prendre le secrétaire, il va vous créer cette misère et vous risquez de pleurer toute votre vie. Il faut faire attention à ses choix, il faut absolument savoir ce qu'on veut. On doit être la même famille que Dieu. Bien entendu, certaines personnes sont engagées avant de venir à Christ. Dieu dit, il ne tient plus compte des temps d'ignorance. Ça, c'était les temps d'ignorance. Mais quand on a été averti, on le dit, un homme averti en vaut deux. Une femme avertie en vaut deux. Et c'est pourquoi le choix d'une femme ou d'un homme doit se faire dans la famille de Dieu. C'est le premier critère, le critère spirituel. Et ensuite, un critère moral. Regardez ce qui se passe ici. Quand le serviteur d'Abraham a prié,
Il a vu une jeune fille venir, chargée de sa cuche sur sa tête, qui venait pour puiser de l'eau pour la famille. Et il a dit ceci, que la jeune fille qui va accepter de me donner de l'eau à boire, et qui en plus va à décider elle-même de faire boire mes chameaux, il y en avait 10, c'est celle-là que Dieu aura choisi pour, comme femme pour le fils ou l'héritier de mon Seigneur Abraham. Ces critères dont je parle ici sont les critères indicatifs dont on doit s'inspirer. C'est pourquoi j'en parle. Regardez ce critère qui apparaît au niveau moral. La jeune fille doit être une fille qui travaille, travailleuse, obéissante à ses parents. Et Rebecca est une fille qui était une femme qui travaillait. On doit choisir des filles qui travaillent ou des hommes qui travaillent. Quand je parle de travail, je ne parle pas forcément d'être fonctionnaire ou agent de bureau qui va au bureau le matin, qui va au soir. Mais la personne doit aimer travailler avec ses deux doigts, avec ses 10 doigts plutôt. On a affaire à des gens aujourd'hui modernes, des filles modernes, des hommes modernes qui sont là sous prétexte qu'ils aiment Dieu et qui ne font rien. Je crois qu'il ne faut pas s'engager sur ce chemin-là. Quand un homme choisit une femme, il choisit une femme dans sa globalité. Il ne choisit pas seulement ses yeux ou sa tête ou son nez. Il choisit également sa capacité à travailler, à procréer et à créer de l'argent, à créer des richesses. On a ça dans Proverbe chapitre 30, je crois. Que la femme vertueuse est celle qui travaille d'une main joyeuse. Alléluia. Donc, l'un des critères qu'il faut regarder au niveau moral, c'est que l'homme ou la femme doit être quelqu'un qui travaille, c'est-à-dire qui fait quelque chose avec ses 10 doigts. Il ne s'agit pas seulement que ce soit un fonctionnaire ou un haut cadre d'université, un avocat, un magistrat, je sais quoi, un président de la République. Non, il s'agit de quelqu'un qui travaille, c'est tout. Ou qui est prêt à travailler. Donc, on le dit aujourd'hui, les hommes n'est plus marié, les femmes qui ne font rien. Donc, chers frères, chers sœurs, cherchez à faire quelque chose parce qu'aujourd'hui, les hommes aiment les femmes qui travaillent. C'est clair. Et les femmes aussi aiment les hommes qui travaillent. Donc, c'était une femme qui était travailleuse, qui aime le travail. Ensuite, on voit dans ce passage-là que si Rebecca acceptait d'aller au puits, ça veut dire qu'elle était obéissante. Si vous devez choisir quelqu'un, cherchez à savoir si cet homme que vous choisissez, il est obéissant à ses parents. C'est pourquoi la connaissance des parents, de la famille, de la fille ou du garçon est importante. Est importante. Vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un et vous dire vous aimez sans savoir les rapports qu'il entretient ou qu'elle entretient avec sa famille. Il peut être irrévérencieux, impoli, irrespectueux devant ses parents, les insulter, tout cela. Si quelqu'un peut insulter ou peut manquer de respect à son père ou à sa mère qu'il a mis au monde, qui a souffert 9 mois. Quand je vois les femmes qui sont enceintes, je vous le dis, je les respecte. J'ose à peine les toucher. Les femmes, vraiment, vous avez un ministère grand parce que vous mettez au monde la vie. Et ça, on vous doit respect et honneur. Que Dieu vous bénisse pour ça. On peut dire amen les femmes. Alors, mais je dis que si un garçon n'a pas de respect pour son père ou pour sa mère, ne vous engagez jamais dans un lien de mariage avec lui. Parce que s'il n'a pas respecté ses propres géniteurs, il ne va pas vous respecter, vous qui venez d'ailleurs. Jamais. L'année de même, si une fille n'a pas de respect pour ses parents, mais demain, il n'aura pas de respect pour le garçon, pour les femmes, pour les parents du monsieur ou du mari. Jamais. Il n'aura pas de respect pour les amis du monsieur ou pour les amis de madame. Il va y avoir des situations difficiles. Rebecca était une fille qui était obéissante à ses parents. C'est pourquoi elle accepte d'aller au puits. Il faut regarder cela. Est-ce que la fille respecte ses parents? Elle obéit à ses parents? Nous voyons aussi dans ces critères que nous sommes en train de lire dans ce passage-là. Il y en a plusieurs, hein, le verset 15, au verset 19, verset 21. On voit qu'elle propose au serviteur d'Abraham de venir avec elle chez elle à la maison, être accueillante. Choisissez un homme qui est accueillant, une femme qui est accueillante. Parce que si quelqu'un n'a pas ce critère d'accueil ou d'hospitalité, qui n'est pas hospitalier, quand vous allez vous marier, vous ne serez pas seul. Vous aurez des enfants. Mais on ne vit pas qu'à la maison, qu'avec ses enfants. On reçoit des amis, des collègues, des connaissances, des frères et des sœurs en Christ ou des amis, des connaissances du lycée. Alors si votre femme n'aime pas les gens du dehors, n'aime pas les gens en dehors de votre vie familiale, quelle vie vous allez avoir? Donc il faut regarder ce petit côté-là. Est-ce qu'elle est accueillante? Est-ce qu'elle est hospitalière? Est-ce qu'elle ne murmure pas? Quand les gens viennent à la maison, Est-ce qu'on n'a pas tendance à dire oui, cela nous embête, ça gêne trop? On doit avoir une idée très claire sur ces critères pour que dans le foyer, on n'ait pas de problème. Vous savez, ce sont toutes ces choses qui sont des sources de conflits et qui font qu'on se bagarre, les vols, les verres volent, on casse les bouteilles, les assiettes, les télévisions, on se maudit, et pourtant on est un enfant de Dieu, on prend sa bouche, on se maudit, et c'est la catastrophe, c'est vraiment la bouillabaisse. Donc ce critère est un critère important, c'est un critère moral. Le verset 16, le sceptre d'Abraham dit, il faut que la fille soit vierge, c'est une fille qui était vierge. Ah, aujourd'hui, parler de virginité, c'est comme si on demandait à quelqu'un de toucher le ciel par sa main. C'est devenu une denrée très très rare. Déjà à 12, 13 ans, les filles sont gâtées. Je vais employer une expression, vous m'excusez. À 13, 14, 15 ans, les garçons sont foutus. Tous sont d'expérience. Et il constate que même des fois, on voit une petite fille qui a 19 ans, elle a l'expérience d'une femme de 40 ans. Son corps même ressemble à une femme de 40 ans pour toute expérience pratique sexuelle qu'elle a vécue, mais à un âge si jeune, si frêle. Ouais, je ne suis pas en train de donner de la moralité aux gens, mais je crois qu'il faut revenir à des valeurs qui sont essentielles. On fait croire à quelqu'un que si tu n'as pas connu une femme ou un homme avant ton mariage, tu seras bizarre. Et tu sais, ce sont des mensonges qui viennent du diable. La science le prouve, on n'a aucun problème particulier. Si elle n'a pas connu d'homme avant son mariage ou après son mariage, aucun problème, ni scientifique. Sinon, Dieu ne serait pas un Dieu conséquent. Dieu ne nous aurait pas dit de se préserver avant le mariage et puis en même temps, on allait avoir des maladies. Ce Dieu-là sait que si c'est Dieu qui l'a dit, c'est que ce Dieu n'est pas conséquent envers lui-même. Or, notre Dieu est un Dieu qui est cohérent, qui est logique envers lui-même. Gloire à Dieu. Vous voyez, je veux te dire que notre intimité sexuelle est le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à son mari ou à sa femme. C'est le meilleur cadeau. Alors, si des gens, on le distribue à n'importe qui, on le distribue comme les distributeurs automatiques de billets d'argent. Si on le distribue au premier qui vous dit je t'aime, ça veut dire qu'on l'a dévalorisé. Le jour du mariage, on va offrir quoi à sa femme ou offrir quoi à son mari si notre passé est chargé d'expériences sexuelles incroyables. Bon, je ne suis pas en train de vous assommer avec ce que je dis, mais c'est la parole de Dieu, elle était vierge. Bien entendu, si on n'a pas connu Christ dans son enfance, dans sa jeunesse, et qu'on l'a connu plus tard, et qu'à cause de la circonstance des vies, on a eu à sortir avec plusieurs hommes, plusieurs femmes, 10, 15, 30, 40, parce qu'il y en a, ou 2, 3, 4, peu importe. Mais dès que vous donnez votre vie au Seigneur, écoutez-moi très bien, le sang de Christ vous pardonne de tout péché, efface vos iniquités depuis la souche. Au niveau spirituel, vous êtes devenu un vierge ou un puceau, en plein terme en français, correct, et, ou une vierge comme fille. Vous devenez vierge au niveau moral, au niveau spirituel. Et même le Seigneur va jusqu'à à restaurer votre corps. Ah oui, je lui dis des choses authentiques. Des filles qui sont convertées dans la foi, mais qui avaient vécu une vie torride ou tonitruante dans le passé, qui sont donnés au Seigneur, ont vu le corps comme être régénéré. C'est comme si elle n'avait pas vécu beaucoup d'expérience. Il y a comme une sorte de lifting spirituel et moral, et même dans le corps. Donc Dieu le fait. C'est pourquoi quand vous convertissez dans le Seigneur, gardez-vous pour offrir votre corps comme un cadeau d'anniversaire, comme un cadeau précieux à votre mari, et que vous, l'homme aussi, vous conservez plus pour offrir votre corps à votre femme comme étant un cadeau. Est-ce qu'on peut dire amen avec moi? Ouais, c'est des choses dont on ne parle pas aujourd'hui à l'église parce que ça gêne certaines personnes. Peut-être que ça gêne celui qui prêche parce que lui-même n'est pas victorieux dans ce domaine-là. Mais il faut prêcher les Écritures. Donc la fille était vierge, c'est nécessaire d'être vierge, c'est important. Vierge dans le passé, mais vierge aussi quand on a accepté de marcher avec Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Ça, c'est un élément qui paraît important. Le verset 56 au verset 58 du passage de Genèse chapitre 24, nous voyons. La jeune fille a été interpellée par ses parents qui l'ont demandé, est-ce que tu es prêt à partir? Elle a dit, oui, j'irai. On doit s'attacher à une fille ou à un homme qui sait ce qu'il veut. Qui sait ce qu'il veut. Des fois, on approche une soeur et dit, oui, bon, je ne sais pas, je vais prier, j'attends la réponse de Dieu. Elle ne sait même pas ce qu'elle veut. Si quelqu'un ne sait pas ce qu'elle veut, si une soeur ne sait pas ce qu'elle veut, si un frère ne sait pas ce qu'il veut, vous l'abordez, il est là, des yeux, il ne parle pas. Il faut le quitter. Ce n'est pas forcé. Comme le genre d'aujourd'hui. L'amour, ce n'est pas forcé. C'est pas la peine de vous humilier à vous, à l'appeler dans la nuit, à lui envoyer des SMS, à la supplier pour dire tu es le cœur de ma vie. Si jamais tu n'as pas accepté, je veux mourir. Faut mourir. Mais en tout cas, faut pas lier ta vie à la vie de quelqu'un. Si elle veut pas accepter, faut la laisser. Est-ce que c'est forcé? Oui, la vie est composée de plusieurs. Dieu est un poète et un architecte qui a créé plusieurs sortes d'hommes, de femmes sur la terre. Si ça ne va pas marcher avec elle, ça peut marcher avec quelqu'un d'autre. Donc il faut que la fille sache ce qu'elle veut. Il faut que l'homme sache ce qu'il veut. Je ne dis pas que quand on approche une soeur, il faut qu'elle accepte immédiatement. Après deux jours, sinon tu vas ailleurs. Non, il faut l'étudier. Mais si vous lui avez parlé qu'elle hésite, elle hésite, elle ne sait pas ce qu'elle veut, bon, il faut dire, ah, mais c'est bon, je te laisse. Le jour où tu seras prêt, où tu seras situé, tu me parleras. Mais il ne faut pas créer des situations de conflit où on ne sait pas où on veut. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. C'est quelque chose que je veux dire aussi en termes de critères. Il faut que la famille de la fille ou du garçon soit une famille qui soit consentante. Il faut que cette famille vous accepte. On est dans les critères, hein. Parce que si vous regardez, si vous cherchez une soeur ou un frère, et vous rendez compte que ses parents sont, vous sont hostiles, ne vous aiment pas, il y a un problème. Parce que vous ne pouvez pas marier l'enfant de quelqu'un si les parents ne sont pas d'accord. Vous allez avoir quel mariage? J'ai appris des choses où les parents, un garçon prend une fille, ils vont à deux, avec deux autres personnes, se marier sans l'accord des parents parce que les parents disent qu'ils ne sont pas d'accord. Franchement, je ne peux pas encourager une soeur ou un frère à se marier dans ces conditions-là sans l'accord des parents. Si Dieu est dans votre affaire, je dis bien si Dieu est dans votre affaire, ce Dieu-là va convaincre le cœur de vos parents. Leur cœur est comment? Ce sont les hommes. Le cœur des parents de Rebecca a été convaincu. Ah, gloire à Dieu. Le cœur de Nebuchadnezzar a été convaincu. Le cœur de Atassès a été convaincu. Dieu peut convaincre n'importe quel cœur qui se trouve au monde. Si Dieu est avec toi, rien ne peut être contre toi. Il faut dire amen. Donc, il faut que les circonstances soient aussi favorables au niveau des parents. Et ça, c'est un aspect qui paraît important. Donc, voici les critères d'ordre moral. Travailleuse, obéissante aux parents, accueillante, hospitalière, vierge au niveau moral, mais au niveau physique aussi, qui sait ce qu'elle veut, qui est consentante, et aussi avec l'accord des parents. On voit aussi également un troisième critère qu'on voit au verset 16, du verset du chapitre 24. Il est dit ici que la jeune fille Rebecca était belle. Ouh! Ça, c'est le critère physique. Donc, il y a eu trois critères que j'ai développés. Critère spirituel, critère moral et critère physique. Je veux dire que la beauté physique ne doit pas être négligée. Dieu nous a créé avec un corps. Hein. Comme l'a dit un ami pasteur, l'homme est un esprit qui a une âme et qui habite un corps. Et effectivement, le corps a ses besoins. C'est par le corps qu'on mange. C'est par le corps qu'on se déplace. C'est par le corps qu'on exprime des sentiments, des émotions. Le jour où notre corps ne fonctionne plus, c'est qu'on n'est plus sur la terre, on est au ciel avec Dieu. Donc le corps est important et le corps doit s'entretenir. C'est pourquoi il déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et que celui qui ne prend pas soin de son corps, qui détruit le corps, qui est le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira aussi. Ça veut dire que le corps est important. Donc quand vous devez choisir un homme ou choisir une femme, il faut tenir compte aussi de l'aspect physique. Est-ce que vous l'aimez en tant qu'homme? Ses yeux vous plaisent? Ses oreilles? Sa bouche? Ses pieds? Ses mains? Tout ça. Parce que j'en parle. Parce que des fois, on veut tout spiritualiser. S'il y a un côté qui se trouve en lui que nous, vous n'aimez pas, demain, là, ce côté mauvais, là, physiquement parlant, peut être le source d'un conflit. Mais à moi-même, j'étais bête. Pourquoi je l'aime comme ça? Quand son nez est bizarre, il respire comme un trou de fumée de ceci. Voilà. Déjà, vous avez des problèmes. Mais il faut que physiquement, il vous plaise. La femme aussi physiquement vous plaît. Il faut qu'il ait une attirance physique. Ouais, Dieu est un Dieu intelligent. C'est la clé intelligence. Quand Adam a vu Ève, il a su sauter. Il a été attiré littéralement par la beauté physique. Dieu est un architecte, c'est un artiste. Ève devait être d'une beauté exquise. Waouh. Je ne dis pas qu'il faut chercher les femmes. Les yeux du soleil couchant et dont la peau est la peau qui ressemble à la lune qui se lève, qui est en train de se coucher et dont les dents sont blanches comme laine avec des doigts taillés ici. Donc je ne dis pas ça, non, ce n'est pas cette beauté scripturale dont je parle, mais il faut qu'il y ait quelque chose en elle qui vous attire et l'homme doit avoir quelque chose en lui qui vous attire tout simplement. Donc je vois que ce critère physique ne doit pas être négligé. C'est la première chambre et c'est une chambre qui est importante. Ensuite, la deuxième chambre, pour aller très vite et m'arrêter à cela. On ira vite sur cette deuxième chambre qui est importante. et qui nous est montré à travers la vie de Ruth, c'est que quand vous avez pu établir vos critères, plus ou moins, qui sont plus ou moins là, les critères généraux et tout cela, moral, physique, intellectuel, spirituel, tout ça, ça vous plaît, ça vous convient, tout. Maintenant, vous ne pouvez pas dire, comme la fille correspond à mes critères, ou l'homme correspond à mes critères, directement je saute et puis je dis, ah, ma soeur, vraiment, je t'aime, je te marie. Elle va te dire non. Aucune fille ne va accepter comme ça. Il faut la deuxième chambre. Et la deuxième chambre, c'est la chambre du rapprochement. La première chambre, c'est la chambre, la richesse de l'âme sœur, avec les critères que j'ai indiqués. La deuxième chambre, c'est la chambre du rapprochement ou de l'amitié. Il faut créer une amitié. Vous ne pouvez pas vivre avec quelqu'un avec qui, ou solliciter même des fiancés avec une personne avec qui vous n'avez aucune relation, aucun rapprochement. Il faut forcément ce rapprochement physique. Et les hommes nous ont donné à travers la vie de Ruth, au chapitre 2. On a tout le passage, hein. Vous savez, le livre de Ruth est un livre qui est formidable. Ouh, j'aime ce livre-là. Surtout pour les questions liées au mariage, sortie du célibat, sortie du veuvage. Ruth est un exemple précis, puissant, de comment sortir du veuvage. Elle avait vécu avec son homme qui était juif, qui est décédé, après 10 ans de mariage, elle était veuve, elle devait être jeune certainement. Elle a réussi à sortir du veuvage. Il y a des personnes qui suivent l'émission qui sont dans le veuvage. Je vous en supplie, cherchez comme Ruth à sortir du veuvage. Mais ce que je vais aborder ici, c'est le rapprochement. Comment Ruth s'est pris pour s'approcher de Boaz? Vous le voyez au verset, au chapitre 2, du verset 2 à 3. Ruth a manifesté un intérêt pour Boaz, pour les travaux, pour le champ de Boaz, le champ des blés de Boaz. Vous ne pouvez pas aller vers quelqu'un et lui dire que vous l'aimez si vous n'avez, s'il n'y a aucun rapprochement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, cherchez à savoir ce que aime le frère que vous aimez, que vous voyez comme un futur mari, un mari possible, ou la soeur comme une femme possible. Cherchez à savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle fait, où elle habite. Créer des contacts, chercher à passer par l'une de ses camarades, de ses amis à l'église. Enfin, trouver un moyen pour que vous puissiez au moins être proche, être dans ses 6 mètres, comme on le dit. Ça, c'est vraiment l'aspect rapprochement. Et dès que vous avez eu à créer ce contact avec elle par l'intermédiaire d'un ami, n'allez pas chez elle comme ça vous-même directement. Cherchez à y aller encore avec l'ami qui sait de pont, je ne parle pas de branchement, mais par qui vous l'avez connu, et puis 2, 3, 4 visites, vous pouvez maintenant l'appeler, développer des contacts, des amitiés. Les femmes aiment des hommes qui ont de la délicatesse. Les femmes n'aiment pas les hommes qui sont brutaux, directs, qui parlent directement comme ça. Les femmes aiment les choses qui sont polies, fines, chouettes, délicates. Les femmes aiment ça. C'est donc à ces choses délicates. C'est humain, mais c'est aussi spirituel. On le voit avec la vie de Ruth. C'est écrit dans comme ça. Ouais, Ruth a cherché à s'intéresser à ce que faisait Boaz. Donc, cherchez à vous intéresser à ce que fait l'homme ou la femme et créez donc un intérêt commun. Donc, quand vous vous intéressez à ce qu'elle fait, finalement, vous avez l'intérêt ensemble. Et vous échangez sur l'intérêt ensemble. Et ça vous permettra de découvrir sa personnalité. Si vous savez ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Et ça, c'est très important. Du verset 9 au verset 12, on voit un peu le partage de la vision, une vision, une bonne vision de l'autre. Ça permet à Ruth de connaître Boaz, de découvrir Boaz, et à Boaz de découvrir Ruth. Quand vous approchez, ça vous permet de découvrir la sœur ou le frère, de savoir si c'est une bonne vision de la vie, et si c'est votre genre vraiment tel que vous l'avez vu de loin. Maintenant que vous êtes plus près, est-ce que ce que vous avez vu correspond vraiment à ce qu'il est? Donc vous quittez le domaine de l'espoir au domaine de la réalité et vous cherchez à savoir. Donc créez ce lien là, cette vision et tout cela. Du chapitre 2, on le voit, du verset 19 au verset 22, il y a l'intérêt qui est créé. Et surtout Ruth avait Naomi, sa belle-mère, comme conseillère. Dans la phase de rapprochement, dans la phase de l'amitié, il est bien d'avoir un conseiller. Beaucoup veulent faire les choses par eux-mêmes. Ah, Dieu m'a parlé, j'ai l'onction, j'ai l'esprit. C'est bien, mais il y a les conseils sont importants. Ayez un frère ou une soeur, ça peut être un pasteur ou un homme mûr ou une femme mûre qui est plus âgé que vous, ou qui du moins est marié, qui peut vous dire, on fait comme ceci avec les femmes, on fait comme ceci, on ne fait pas comme ceci avec les femmes, on fait comme ceci avec les hommes. quelqu'un qui peut vous aider. Dieu ne nous a pas créé tous sur la terre. Il y a des hommes qui nous aiment, des femmes qui nous aiment. Écoutons leurs conseils. Dieu nous parle toujours à travers des hommes et des femmes. Et c'est bien d'avoir un conseiller, mais pas un gourou, un conseiller, pas un visionnaire qui vous donne la vision de ce qu'il faut faire. Non, quelqu'un qui peut vous dire, sur le plan humain, on fait ceci, on fait cela. Et Ruth avait une Naomi. Cherchez à avoir une Naomi. Si vous convoitez une sœur, qui s'appelle Elisabeth, ou Rosalie, ou Micheline, ou je ne sais pas qui, ou convoitez un frère qui s'appelle Abraham, ou Isaac, ou Jacob, ou Jérémie, ou Paul, ou Pierre, ou Jacques, peu importe, il est bien d'avoir un conseiller, un Jean Naomi, qui va vous donner, je me suis dit, les tuyaux. Ou les, oui, les tuyaux, pour voir comment il faut faire et tout cela. Et on nous voit encore un autre aspect, c'est que dans la phase de rapprochement, le corps doit être entretenu. Nous sommes dans la deuxième chambre. Le corps doit être entretenu. Quand on lit le chapitre 3, Ruth s'habillait proprement. Propre. Bien parfumé, elle s'entretenait. Sœur, si vous voyez qu'un homme commence à vous regarder, cherchez à être toujours propre. Les hommes aiment les femmes propres, bien mises, sérieuses. Bien sûr, les femmes ont aussi les hommes qui sont propres aussi. Un ami pasteur qui n'est plus en Côte d'Ivoire m'a raconté une histoire qu'il avait dans son église un frère qui était très élevé dans la foi et qui aimait une sœur. Il s'était même fiancé, semble-t-il. Mais à un moment donné, la sœur ne voulait plus de lui. Et la sœur, elle a dit non, on ne peut plus continuer ensemble, tout ça. Le frère était déçu, il priait, il gênait. La situation ne changeait pas. Alors, ce pasteur m'a raconté que, en fréquentant le frère, il s'est rendu compte que le frère était sale. Il s'habillait mal, il ne se rasait pas bien, il ne se coiffait pas bien. Et surtout, il ne mettait pas de parfum. Donc, tout sentait sur lui. Et moi, de la sœur, ne pouvait plus continuer à supporter cette odeur nauséabonde. Il y a des odeurs qui tuent des gabris. Bon, je m'excuse. Mais la sœur est partie. Et quand le pasteur l'a vu, le pasteur a dit, il n'y a aucun problème. Maintenant, je peux te dire de quoi il s'agit. Sans doute, la sœur a dit au pasteur que le frère était sale, il sentait mauvais, tout ça. Le pasteur a dit au frère, s'il te plaît, change ta façon de t'habiller. Coupe tes cheveux, rase-toi, coupe tes ongles, achète-toi un bon parfum. Pas des parfums de 2000 francs, des parfums qui coûtent 15-20 000 francs, des panneaux de grande qualité. Mets-toi les parfums. Tu vas voir à nouveau, elle va revenir. Et ça a marché. Ruth s'était parfumée. Le parfum s'attire naturellement. Ne sois pas sale en pensant qu'au niveau spirituel, Dieu va arranger ça. Non, l'homme regarde ce qui frappe les yeux. C'est Dieu qui l'a dit. Il dit que Dieu regarde ce qui frappe au cœur, mais l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Donc l'homme que tu regardes, c'est un homme, il n'est pas Dieu. Lui, il ne va te regarder que par rapport à ses yeux. Alors si au niveau spirituel, au niveau naturel, tu es propre, tu es chic, tu es choc, alors son cœur peut toucher. Nous sommes faits de chair, hein, et on a un chair, on a des os, on a des humains, on a besoin de sentir les choses. C'est quoi cet aspect ne doit pas être négligé. Ruth a pris soin de son corps et le cœur de Boaz a été touché. Ça, c'est un autre aspect, que l'aspect du rapprochement. L'amitié est née ici. Ensuite, au verset 6 du chapitre 3, nous voyons qu'une situation a été créée. Une nuit, il est parti se dormir juste à côté de ses pieds. Je ne dis pas qu'il faut aller maintenant dormir chez les frères, hein, ça, je suis en train de dire ça. Je suis en train de dire que la Bible nous donne un exemple de comment créer une situation. Il faut que la sœur ou le frère crée une situation. Pendant qu'ils sont dans la phase de rapprochement ou d'amitié, pendant ce temps, le frère n'a encore rien dit. La sœur n'a encore rien dit. Mais il faut créer des circonstances, des situations, hein, qui permettent à l'homme de parler, n'est-ce pas, de créer des choses. Et puis, dans ce cas-là, ça a marché. Alléluia. Une situation a été créée. Et au chapitre 4 de Ruth, on voit qu'effectivement, la situation a été créée. Et que Boaz a déclaré sa flamme, parce que je précise que Boaz avait un droit de rachat par rapport à Ruth. Bon, c'est très compliqué, mais en Israël, il y avait un droit de rachat quand quelqu'un mourait, qui était de la même famille, vous pouvez avoir ce droit de rachat en mariant sa femme. Ce qu'on appelle le Lévira, ça existait aussi en Israël. Donc, la femme devait lui revenir, mais quelqu'un d'autre devait se libérer de ce droit de rachat afin que Boaz récupère Ruth comme étant sa femme. Mais Ruth a réussi à créer les circonstances et la situation. Frère, sœur, est-ce que tu aimes quelqu'un? Tu aimes un frère, tu aimes une sœur? Crée une situation. Par la sagesse, avec la grâce de Dieu. Et quand vous êtes dans une phase de rapprochement, d'amitié, il faut s'appeler à 3h du matin pour dire non, il faut se va appeler aux heures normales, rendre visite aux heures normales, prendre les conseils qu'il faut. Toujours aller chez la soeur avec quelqu'un. Je n'encourage surtout pas un frère qui aime une soeur, à qui n'a pas encore déclaré sa flamme, de se trouver à deux, surtout si c'est un sujet universitaire, dans une même chambre, ça fait bizarre. On sait ce qui passe après. Donc, il faut prendre ses précautions pour éviter ce genre de choses-là. Alors, il faut vraiment retenir que quand les situations sont créées, l'homme qui généralement est un chasseur est celui qui va prendre les initiatives et qui va parler. C'est Boaz qui a déclaré et qui a parlé. Mais Ruth a créé les conditions. Donc les sœurs peuvent et doivent créer les conditions qui permettent à l'homme d'être à l'aise, de se sentir rassuré et de se dire que si je sais et que je parle, ça va marcher. Alors s'il se met à parler que ça marche, alors il est heureux. Et ça a marché. Et ça a marché chez Ruth. Et ça a marché avec Boaz. Et les deux se sont mis d'accord pour se marier. Donc ils ont quitté la deuxième chambre pour entrer dans la troisième chambre, qui est la chambre des fiançailles. Alléluia. Mais nous allons nous arrêter ce matin sur cette deuxième chambre, qui est la chambre du rapprochement de l'amitié. Et on abordera plus tard la chambre des fiançailles. Comment doivent se faire les fiançailles, sujet les fiançailles. Et on verra maintenant comment on passe au mariage, c'est-à-dire la phase de quitter père et mère. Comment quitter son père et sa mère et s'attacher à sa femme afin de devenir une seule chair avec elle. Et après, ça sera là, c'est la quatrième chambre. Nous verrons plus tard la cinquième chambre, n'est-ce pas, qui sera le deuxième niveau que nous verrons après. On verra comment apprécier les qualités de l'autre, qui est une chambre aussi. Les moments de tendresse, qui est notre chambre. La septième chambre, ou la petite huitième chambre, qui est le partage d'intimité sexuelle. On verra aussi notre chambre qui est le pardon des fautes et la minimisation des défauts de l'autre. Et notre chambre aussi qui est le renouvellement de l'amour. La dixième chambre qui est la gestion de l'argent et des projets en commun. La onzième chambre qui est la place des enfants, l'éducation des enfants, la place des personnes extérieures dans le couple. Et la douzième chambre qui est la communion avec Dieu dans le foyer. C'est tout cela qui fait, c'est tous ensemble qui constituent les 12 chambres du bonheur conjugal. Alors nous sommes qu'à la 12e chambre, on abordera la 3e chambre, la 4e chambre, la 5e chambre jusqu'à la 12e chambre. Et nous mettrons fin à cet enseignement-là sur construire les 12 chambres du bonheur conjugal. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit sur vous. Nous allons prier ensemble, mais cet enseignement que je donne, vous retrouvez ça. Je vous demande d'aller encore sur Internet pour retrouver ça sur Internet. www.christenvous.com. Je reprends www.christ comme Jésus-Christ, Christ en vous, en vous, en vous, 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 en vous, point, et puis comme MCOM. Cet enseignement se trouve là-bas, où vous la voyez et votre cœur sera édifié. Que Dieu vous bénisse. On va se demander, on va se créer une débauche, s'il vous plaît, et prier pour la fin. Je vois des souris, mais je sais que vous êtes bénis et de nous aider à aller de l'avant. On va prier maintenant.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.